m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Grande, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour, chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir 3 voix. Pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays, vous connaissez la formule. Jean-François Coulon-Désart est là, journaliste et écrivain. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Damien Chalamel, homme de culture, de combat et avocat spécialiste de la propriété intellectuelle. Bonsoir Damien.
Bonsoir Marc, chers auditeurs.
Philippe Charlès, ingénieur des mines de l'école polytechnique de Mons et docteur en physique de l'Institut de physique du Globe de Paris. J'aime bien donner votre diplôme parce que ça calme les antiques qui ont
complotistes. Vous voulez que je prenne l'accent belge?
Mais volontiers, ça serait extra.
Alors bonjour, chers auditeurs.
Voilà, parce que Philippe Charlès est belge.
Personne n'est parfait.
Entre autres qualités. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Martine vous attend au standard. Vous êtes les bienvenus. Au programme ce soir, je consacrerai mon petit édito à Maria Carolina. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est vraiment que vous habitez dans une cave, parce qu'on ne parle plus que d'elle depuis plusieurs jours. Maria Carolina, le coup de maître de Jordan Bardella. Notre plat de résistance, notre grand dossier, ce sera l'Iran, l'impossible paix, avec un point d'interrogation. Nous traiterons de cet important sujet avec Alain Juillet, qui est l'ancien directeur du renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la DGSE et ancien haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre François Fillon jusqu'en 2009. Et il sera avec nous d'ici un quart d'heure. Afuera, David Linard est-il le Javier Milei français? Ce sera notre second dossier et puis nous aurons comme d'habitude notre petit clin d'œil culture où nous évoquerons les livres, les films ou les instants culturels qui nous ont séduits cette semaine. Mais auparavant, traditionnel tour d'actualité, qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine? Ils ont tous préparé leur actualité choc. Jean-François Coulon-Désart, par exemple.
C'est toujours moi qui commence.
Mais oui, je vous sens comme une bille sur un tambour.
Oui, non, il y a... Bah, écoutez, ce que j'ai retenu, c'est un vote à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ouais. Un vote, en tout cas une discussion, ça n'a pas encore été voté, à propos du 1er mai. C'est quand même hallucinant. La droite, l'opposition parlementaire, veut que les boulangers puissent travailler le 1er mai, puissent faire travailler leurs salariés, ainsi que les fleuristes. Tout ça, évidemment, si vous êtes volontaire, vous êtes payé 3 fois le prix habituel et vous avez une journée de récupération. Eh bien, figurez-vous que la gauche est vent debout contre ça. Ils n'en veulent pas. La gauche et les filles, c'est un scandale, c'est un déni de démocratie, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment, on a vraiment un peu. Donc c'est ce que j'ai retenu cette semaine. On a vraiment un peu de mal dans ce pays. Hein.
La gauche
depuis
les
35 heures
payées.
qui nous ont coûté une fortune, absolument une fortune. Ils ne veulent pas que les gens travaillent. Mais laissez-nous la liberté de travailler. Il y a des gens qui aiment travailler. Qu'est-ce que c'est que cette définition marxisante du travail, comme quoi ça serait mettre l'homme en esclavage? Il y a des gens qui aiment travailler, c'est tout. Et laisser ces commerçants travailler le 1er mai aussi. Ça met en colère. C'est vraiment une bande de gauchos, bobos, vafanculo, hein, vraiment.
Il faut revenir, il faut revenir à la base, cher Jean-François. Pour la gauche, le travail est une douleur, le travail est une contrainte, est une exploitation. Et c'est resté...
C'est un très vieux logiciel quand même.
Ah oui, mais c'est un vieux logiciel, mais qui n'a jamais été autant d'actualité aujourd'hui.
Non, mais surtout, il y en a qui en ont besoin pour... vivre, tout simplement.
Tout le monde a besoin de travailler pour gagner un peu de pouvoir d'achat.
Non, non, mais bien sûr, on a bien compris. Ce que j'explique, c'est que c'est quelque chose qu'on comprend et que la gauche s'y oppose. J'aurais été étonné qu'elle dise oui. Vraiment. Voilà.
Bah oui, non, non. On en est là.
Alors là, pour stopper, parce qu'ils ont fait, à l'Assemblée nationale, plus personne n'y comprend strictement rien. Alors, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont voté contre leur texte, qu'ils proposaient. C'est une procédure, si vous voulez, c'était pour annihiler la centaine d'amendements que la gauche, que LFI, que les socialistes avaient préparés, justement pour pousser le texte hors de son précaré, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu être voté. Donc, c'est une procédure parlementaire un petit peu complexe, qui est très peu utilisée, parce que la dernière fois qu'on l'a utilisée, si mes souvenirs sont bons, c'était pour la loi Duplomb. J'espère qu'ils vont arriver à le voter. Mais les sénateurs et les députés vont se mettre autour d'une table, et puis ça va être voté, et c'est prévu pour que ça soit mis en pratique dès ce 1er mai. Donc, vous voyez, il reste 15 jours.
Il reste pas beaucoup de temps. Ouais. Damien Chalamel, vous restez silencieux.
Non, mais je suis consterné par ce que j'entends. Ah. Je suis un fervent partisan des jours fériés. Je ne crois pas que mes chers amis Philippe Charlez et Jean-François Coulon-Desart mesurent... le côté ridicule du propos, parce que de dire que la droite...
Non, mais attendez, en l'occurrence, ce n'est pas la sanction.
Mais de dire que la valeur, la droite se définirait par la valeur travail... Mais c'est consternant, je veux dire. Et sous l'Ancien Régime, il y avait trois fois plus de jours fériés qu'auparavant. Qu'auriez-vous dit ? Vous auriez crié aux orfraies.
Est-ce que l'Ancien Régime était de gauche ? C'est ça que vous voulez dire ?
Mais bien sûr, enfin, je veux dire, et les jours fériés, c'est aussi un moment de se consacrer à sa famille, d'avoir des activités qui ne soient pas...
Oui, mais Damien,
on
n'est pas contre les jours fériés, on est contre le 1er mai et on empêche les gens de travailler. Il y a des gens qui veulent travailler, c'est tout.
Mais il y a aussi des gens qui veulent travailler.
Il y a des gens qui travaillent aussi les jours fériés.
L'un après l'autre.
On n'a pas imposé. C'est pas imposé, c'est un choix.
Non, mais c'est un choix libéral. C'est le renard dans le poulailler, quoi. C'est-à-dire que vous êtes train de me dire, effectivement, vous trouverez toujours quelqu'un prêt à travailler le lundi de Pâques et le 25 décembre.
Oui, on parle du 1er mai.
Moi, je vous parle d'une autre société.
On parle du 1er mai. Où vous allez acheter votre pain le 1er mai, parce que tout est fermé.
Eh bien, je mangerai le pain de la veille. Oui. Je décongèlerai mon pain.
Ouais. Voilà. Non, on parle du 1er mai. Laissez la liberté de travailler aux gens. Point final, ça ne met pas en cause du tout les jours fériés. C'est pas mon propos, en tout cas.
Moi, je comprends.
Mauvaise foi,
Chalamel. Mais le 1er mai, c'est vrai que c'est la fête du travail.
C'est la fête de la CGT. Voilà, c'est la fête de la CGT. Alors, évidemment, la mère Binet a été. Oh là là, c'est affreux ce qui se passe.
Le 1er mai, vous pouvez aller défiler pour honorer Jeanne d'Arc avec le Rassemblement national. Également.
Ah ben voilà. Oui, certes.
Vous voyez, vous pouvez faire toutes sortes de choses.
Oui, mais s'il y a des gens qui ont envie de travailler le 1er mai.
Oui, mais c'est toujours pareil. Vous savez, il y a des salariés qui ont envie de travailler le dimanche. Puis qui ont envie de travailler 7 jours sur 7.
Ah oui, c'est
et 365 jours sur 365.
Vous savez qu'il y en a plein. Hein. Il y en a plein quand il y a eu le 1er mai. Vous avez les médecins urgentistes, les pompiers, les policiers, les avocats commis d'office. Il y a tout un tas de gens qui travaillent les jours fériés aussi.
On clôturera pas le débat, qui est un vrai débat sur les jours fériés. Ce soir, donc Damien Chalamel était opposé à Philippe Charlez et Jean-François Coulon-Desart. C'est un joli duel pour démarrer l'émission. Voilà, et moi j'avais ma petite actu aussi, Damien Chalamel,
bien sûr. Mais alors j'espère que c'est pas la même que la vôtre,
dans l'actualité.
J'ai lu un article de votre part, mais j'ai pensé à la même chose, c'est ce dîner du mardi 7 avril chez Drouan.
Oui.
J'aurais bien aimé être la petite souris autour de cette auguste table qui réunissait autour de Marine Le Pen la fine fleur du capitalisme français.
C'est vrai.
On a noté les noms de Bernard Arnault, ce qui n'est pas rien, d'Henri de Castres, Patrick Pouyanné, Cyril Bolloré, Pierre-Yves Sterrin, mais là c'est modeste.
Non, c'était très bon,
modeste.
On a bien rigolé
Pierre-Edouard.
En plus. Pierre-Edouard,
pardon, ouais. Pierre-Edouard Sterrin. Voilà, non mais les premiers noms que j'ai cités sont, et d'autres que j'oublie, sont quand même extrêmement significatifs.
Oui, absolument. Une 15 très grands patrons, très importants. Et c'était une première, quand même. C'était une première à ce niveau. Voilà.
C'est
vraiment et avec cet organisme patronal, qui est un organisme patronal très, très ancien et très important.
D'adoubement, enfin, au moins apparent, de Marine Le Pen par une partie de l'établissement économique. Voilà, absolument. Du patronat, du grand patronat.
Bah, ça veut dire que le grand patronat n'est plus inquiet et le Rassemblement national ne fait plus peur.
Mais là, au patronat, c'est ça que ça veut dire. Je pense que c'est surtout que la perspective de voir Marine Le Pen, en tous les cas, le Rassemblement national accéder au pouvoir est de plus en plus crédible. À partir de là, je pense que personne n'a jamais eu réellement peur ni de Marine Le Pen ni du Rassemblement national. Comme le disait regretté Lionel Jospin, l'antifascisme était un théâtre.
Voilà. Ouais. Et le petit théâtre antifasciste.
Le petit théâtre antifasciste, pour faire peur aux petits-enfants.
On a quand même eu au menu de ce dîner le cordon sanitaire. Qui a été dévoré par les patrons et Marine Le Pen.
C'était le dessert. Le dessert s'appelait-il le cordon sanitaire?
Il en restait un peu. Ben là, il y a des parties qui ont
disparu. C'est un beau nom de dessert, le cordon sanitaire.
Ah ben voilà, il vous reste plus qu'à inventer la recette.
Surtout servir en EHPAD, ça serait joli.
Voilà. Et moi, j'ai été très étonné par cette petite anecdote dont vous verrez le symbole assez rapidement, c'est ce migrant qui avait volé l'épée de Jeanne d'Arc à Paris, place Saint-Augustin. J'ai trouvé que c'était un symbole étonnant. C'était le 2 janvier dernier. Il était récemment arrivé du Mali, notre migrant, en Europe et puis en France. Il a escaladé la statue de la Sainte et il s'est saisi de son épée et puis s'est enfui en courant avec l'épée de Jeanne d'Arc. Donc il a été interpellé dans la foulée par la police. Il a été placé en garde à vue et jugé. Et notre confrère Amaury Bucco de Valeurs Actuelles elle nous a appris que ce migrant sans papier était donc ressorti du tribunal ce 2 avril, tout récemment, libre comme l'air, hein, avec seulement 6 mois de prison, avec sursis.
Voilà, et l'épée donc, ou pas?
Et l'épée a été récupérée.
Elle a été récupérée, on ne lui a pas donné?
Non, elle a été remise à sa propriétaire, Jeanne d'Arc. Et il y a un peu tout dans cette histoire hein, de migrant malien qui... Il fallait quand même avoir l'idée hein, de grimper sur la statue, de se saisir
de l'épée. Donc c'est la statue de Jeanne d'Arc située place des Pyramides?
Place Saint-Augustin.
Ah, place c'est Saint-Augustin.
Donc tout près de Saint-Lazare.
Je vois très. Non, mais je
devant
vois
les deux, rien, devant l'église.
Je vois très voilà, bien. Devant l'église Saint-Augustin. Absolument.
Celle qui, autour de laquelle Paul Déroulède réunissait les patriotes français.
Voilà, exactement. Et donc c'est une statue qui a une portée patriotique. J'ai vu là, moi, le choc de l'histoire et de la modernité, le choc des cultures et des symboles, le laxisme judiciaire, la culture de l'excuse, le drame du patrimoine français qui est livré à l'ensauvagement. Tout ce qui défait la France est un petit peu contenu dans cette petite histoire de migrant qui a teinté un symbole, grand symbole de la patrie entre tous et qui est ressorti libre comme l'air.
Et vous dites migrant, voilà. Il est ressorti, il a donc des papiers, une carte de séjour, etc.
Ben, je ne crois pas. Non, il était sans papiers.
C'était
un OQTF.
Voilà. Et il est ressorti, voilà. Très bien.
Voilà, exactement. Voilà, donc une petite histoire de la France contemporaine. Alors, édito, c'est l'heure. Je vais vous parler de Maria Carolina, qui est l'atout maître de notre ami Jordan Bardella. Non? Voilà, alors, on aura une petite...
On n'a pas de virgule.
Sonore plus tard.
Ah non, eh ben, on l'aura plus tard.
Voilà, donc selon Paris Match... Jordan Bardella est donc en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Paris Match dit toujours vrai, surtout quand le sujet est autorisé, comme c'est le cas. Les photos, en tout cas, étaient autorisées. Paris Match va vendre, et beaucoup, car ce qui pourrait n'être qu'un détail d'une vie privée qui ne nous regarde pas, va vite devenir un immense atout dans la campagne de celui qui sera peut-être, ou sans doute, le candidat du RN lors des prochaines présidentielles. Il sera l'homme à abattre. Si jamais Marine Le Pen est empêchée, Bardella, on le sait, est à peu près certain d'atteindre le deuxième tour de la présidentielle en 2026. Il n'est pas certain d'être élu, mais il est à peu près certain aujourd'hui, si tant est que la politique puisse donner des certitudes, d'être au deuxième tour. Il va donc être la cible de l'ultra-gauche, de la gauche du centre et de la droite centriste jusqu'au dernier jour de la campagne et après. on l'a vu avec François Fillon. Lorsqu'un candidat de droite prend le vent des sondages et s'installe en position d'être élu à la tête de l'État, le système se déchaîne. La presse de gauche, les officines en tout genre avaient préparé sur Fillon des dossiers qui sont opportunément sortis en pleine campagne. Face à cette nuée de flèches empoisonnées qui vont cibler le candidat RN, qu'il soit aux côtés de MLP ou devant elle durant la campagne, la carte Maria Carolina sera d'un immense secours. C'est un peu l'increvable, le véhicule prioritaire, hélas du volant, pour ceux qui ont joué aux mille bornes. D'abord, la romance Jordan-Maria Carolina va troubler le discours sur les origines modestes et le manque de diplôme de Bardella. Un homme qui sait ravir le cœur d'une princesse séduit d'autant plus le public des jeux de célébrités qu'il est, des journaux de célébrités qu'il est précisément sans grand diplôme et d'origine modeste. Le conte de fées a conservé sa magie. Et puis, si elle est jouée finement, la romance Jordan-Maria Carolina va tenir en haleine les Français. Il suffit de scénariser une dispute, la perspective d'une rupture, la réconciliation, les fiançailles, l'opposition de la famille et le mariage un mois avant le scrutin présidentiel. S'il accède au pouvoir, Bardella pourra encore ponctuer chaque crise de l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Le député d'ultra-gauche Alexis Cordière peste façon vieux ronchon, le pipopulisme, dit-il, ou la nouvelle étape écœurante de la banalisation de l'extrême droite. Paris Match, le poids des mots, le choc des fachos, dit Alexis Corbière sur X. Il est jaloux, diront les internautes. Aucun Alexis Corbière ne peut lutter contre l'effet bombe d'un jeune couple comme celui qui se crée. À ce stade, il faut avoir une pensée pour ces officines qui avaient sans doute prévu bien des attaques et l'exploitation de bien des faiblesses du probable candidat Bardella et qui voient leurs efforts menacés de ruine. Dans les familles régnantes, le mariage a longtemps été conçu comme l'occasion de dérouler une stratégie. Cette romance fournit à Bardella un atout stratégique majeur avec sa jeunesse, son allure sculpturale et ses longs cheveux blonds. Maria Carolina a toutes les qualités pour surpasser dans le potentiel de séduction des Français des femmes aussi éminentes que Bernadette Chirac, Carla Bruni, Valérie Trierweiler, Julie Gayet ou Brigitte Macron. Apportera-t-elle le petit supplément de voix qui permettrait à Bardella de passer la barre du deuxième tour ? Réponse en mai 2027. Voilà, est-ce que vous avez suivi cette affaire ? Est-ce que vous êtes d'accord ?
J'ai pas suivi cette affaire.
Voilà, notre sortissant d'une monarchie, Philippe Charlès.
Je ne suis pas du tout convaincu
belge d'origine
par votre démonstration.
Ah, zut !
Donc d'abord, comme vous l'avez dit, la vie privée de ces jeunes tourtereaux ne nous regarde pas et ne regarde personne, ça c'est une première
sauf
chose.
Sauf quand elle s'affiche
mais
dans
quand
Match,
elle
quand même,
s'affiche dans Paris, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est-à-dire quelle est la stratégie qui est derrière, parce qu'il y a manifestement, ce que je veux dire, on ne peut pas dire, on ne s'affiche pas comme ça dans Paris Match en autorisant, parce que c'est quand même, c'est pas un petit encart dans Paris Match, hein, c'est carrément la couverture.
C'est la couverture.
C'est la couverture. Donc quelle est la stratégie qui est derrière? Et je ne sais pas, alors vous avez l'air de dire qu'effectivement ça va l'aider. Moi, je pense que ça pourrait au contraire le desservir, mais l'avenir nous
Pourquoi
le dira.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il desservirait?
Ben, je pense que Bardella et le Rassemblement National a fait énormément d'efforts pour conquérir les classes populaires. Et ces classes populaires jouent. On dit toujours que pratiquement 60% des anciens électeurs du Parti communiste sont aujourd'hui au RN. Je ne sais pas si cette image... Le fait qu'il soit en couple, je crois que ça n'aurait dérangé personne. Mais le fait de le mettre en scène, je ne sais pas si vraiment ça va, si vraiment
Vous
ça va lui
que
servir.
Ça peut froisser ses électeurs.
Ou le desservir et que ça pourrait éloigner un certain nombre d'électeurs. Peut-être en rapprocher d'autres. Parce que la romance n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était. Au temps de la princesse de Monaco et de Régnier de Monaco, c'est plus du tout pareil. On ne joue plus comme ça. Et puis là, c'est pas entre un prince et une princesse, c'est entre un présidentiable et une princesse. J'ai du mal à comprendre et je me demande si le calcul n'est pas erroné.
Mais Jean-François Coulon des Arts,
qu'est-ce
que
vous en pensez? Cher Philippe, vous parlez. Je veux dire, on peut imaginer. Moi, j'ai la faiblesse de croire que ce sont deux jeunes gens. Il a 30 ans, elle en a 22. Ils sont tombés amoureux,
mais,
point final.
Mais non, mais
acte 1,
il y a quand même un romantique ici.
Acte 1, c'est ça. Acte 2, maintenant, est-ce que c'est un coup politique? La réponse est oui. Souvenez-vous, il y a 10 ans, Macron et Brigitte C'est Brigitte qui a fait finalement élire ce jeune homme fringant qui sortait à peu près de nulle part. Le nombre de couvertures de matchs et le nombre de couvertures qu'ils ont fait tous les deux pendant la première campagne électorale est impressionnante. Et c'est elle qui a propulsé son mari. Donc le coup politique, si coup politique il a, mais je pense que ça vient chez Bardella en deuxième ou troisième, au troisième niveau. Le premier niveau, c'est qu'il aime cette fille, je suppose, quoi, c'est-à-dire tel qu'on nous vend le récit. Il en restera
certains
là.
Certains en doutent, hein, évidemment.
Voilà, certains doutent, mais bien sûr.
On comprend.
Oui, certains en doutent. Maintenant, quand vous dites que ça va, son électorat va être froissé, etc. Pas du tout. C'est l'histoire de la princesse et puis du jeune gars qui s'est élevé à la force du poignet, etc. C'est formidable. Arrêtez.
C'est un conte de fées.
Alors, c'est génial.
Un conte de fées.
Mais c'est bien sûr, les gens adorent ça. Vous allez voir. Et ça va faire vendre du papier, comme disait.
Ça c'est certain.
Comme disait Brigitte Macron, vendre du papier.
Je ne me fais aucune inquiétude de ce côté-là.
Alors, Damien Chalamel.
Écoutez, monsieur, je pense, enfin, la stratégie me paraît assez évidente, c'est-à-dire que c'est une communication maîtrisée, et ça, bien évidemment, évite aux intéressés d'être victimes de la prochaine paparazzade. Donc là, c'est une manière d'assumer officiellement, et il n'y aura plus aucun scoop à dévoiler des photos des intéressés la prochaine fois qu'ils se promèneront dans la rue. Maintenant, alors là où je suis pas d'accord avec notre ami Philippe, c'est que je pense pas que ce soit en soi les origines et la généalogie de cette jeune femme qui soit gênante pour l'électorat populaire du Rassemblement National. En réalité, le peuple n'aime pas les élites qui le méprisent. Mais le peuple français, comme les autres peuples, ne dédaigne pas avoir des élites. Quelle que soit leur ascendance. Alors là où j'ai un vrai sujet, c'est mais l'amour, bon, c'est autre chose, mais c'est en opportunité, je me demande si c'est en revanche effectivement un parti approprié quand on aspire aux plus hautes fonctions. Je veux dire par là que ça n'est pas.
Pourquoi ne serait-il pas approprié?
Ben, si vous voulez, c'est quand même
merveilleux de voir un jeune garçon des banlieues ramener les Bourbons sur le trône de France.
Vous plaisantez, mais il y a une part sérieuse dans le statut de cette jeune femme. C'est qu'elle est la représentante d'une dynastie. Elle sera, au décès de son père, la représentante
officielle
d'un État qui a disparu avec l'unification de l'Italie, le royaume des deux Siciles, ce qui n'est pas rien. Alors, si elle se retrouve être épouse d'un chef d'État ou d'un premier ministre français, et cet aspect-là de sa personnalité, qu'elle semble manifestement prendre très au sérieux, n'est pas négligeable. Donc, de ce point de vue-là, bon, alors, par ailleurs, il y a le côté bling-bling, bon, mais ça,
Voilà, vous mettrez une pièce dans le cochon pour le bling-bling.
On est tous très heureux de savoir que Jordan Bardella
n'est plus seul.
Oui, voilà. Enfin, ça c'est autre chose à la limite. Hein.
Bon, alors, moi, je maintiens que je pense que c'est un coup extraordinaire et que, au contraire, le peuple de France va adorer cette histoire.
Bah, écoutez, voilà. Rendez-vous au prochain sondage.
Exactement.
Ce sont vos origines bourbonnaises qui vous trahissent.
Absolument, sans doute.
Vos attaches bourbonnaises.
Je sens que nous n'avons pas fini d'en parler.
Connaissais les Bourbons Parme, qui était la branche espagnole, mais par contre, je connaissais pas tellement les Bourbons des deux Siciles.
Ah, mais il y a plein de branches de Bourbons.
Oui,
les Bourbons
Ducés.
Voilà.
On sait que c'est une branche de Saint-Louis. Si on peut, les Bourbons sont apparus. C'est issu du frère de Saint-Louis.
Oui, mais Saint-Louis a été très généreux. Il a beaucoup beaucoup donné. Donc il y a beaucoup de branches.
Voilà. Allez, on y reviendra. Hein. Nous allons parler tout à l'heure de David Lisnard. On se demandera s'il est le Javier Milei français. Mais auparavant, l'Iran, l'impossible paix.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlez, Damien Chalamel et Jean-François Coulon-Désart, le conflit lancé par les États-Unis et Israël contre l'Iran n'en finit plus de dégénérer. Les Français se demandent s'ils pourront encore faire le plein dans quelques jours ou quelques semaines. Quel impact aura-t-il sur la France, ce conflit? Quel jeu joue la France et ses services secrets? Les grandes puissances jouent-elles en ce moment les rapports de force des 10 ans qui viennent? On va parler de tout cela avec vous, Alain Juillet. Bonjour Alain Juillet.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur du renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Vous avez été haut responsable en charge de l'intelligence économique auprès du Premier ministre François Fillon jusqu'en 2009. Je ne cite qu'une partie des étapes de votre carrière, qui en a compté bien d'autres. Et vous êtes un brillant analyste de la situation internationale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Boulevard Voltaire et de Radio Courtoisie. Alors, on va parler de la France dans ce conflit, de l'impact sur le prix à la pompe pour nous Français, notamment avec Philippe Charlez aussi. Mais d'abord, toute la France s'est réjouie de cette nouvelle qui a été annoncée ce mardi 7 avril par Yael Braun-Pivet. C'était à l'Assemblée nationale.
Nous venons d'apprendre une nouvelle qui va réjouir, je crois, l'ensemble d'une nation. Cécile Kohler et Jacques Paris sont dans un avion pour Paris.
Voilà, nos deux otages, Cécile Kohler et Jacques Paris, ont en effet été reçus par Emmanuel Macron, c'était mercredi, à leur arrivée à Paris. Après les réjouissances, vient le temps des questions, Alain Juillet. Alors, première question, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont retenu et été retenus si longtemps, et pourquoi est-ce qu'ils sont libérés maintenant? Est-ce que vous avez une idée? Parce que tout cela se passe... évidemment, sous la surface de ce qu'on peut savoir. Hein.
Ah ben, je crois que c'est très clair. Enfin, c'est pour nous, en tout cas, c'est très clair. Les Iraniens n'hésitent pas à utiliser des otages, on le sait très bien, pour avoir une monnaie de négociation. Quand vous n'avez pas de moyens, quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas de moyens, il faut trouver des systèmes qui vous permettent de faire pression sur l'autre. Alors eux, c'est ce qu'ils ont trouvé, et puis il y en a d'autres. Mais eux, on fait ça assez régulièrement. Ils prennent des otages et à partir de là, ensuite, ils négocient. En ce qui concerne ces deux otages, durant toute la longue période durant laquelle ils ont été arrêtés, on sentait que c'était pour faire pression sur la France. Puis quand ils ont vu à un moment que ça marchait moins avec les Français, ils ont accusé ces gens-là d'être des espions du Mossad. Deuxième temps, d'abord on a dit que c'était des espions de la DGSE, après c'est des espions du Mossad. Puis quand ils ont vu que bon, les pauvres, ça ne marchait pas, ils sont revenus avec les Français en disant c'est la faute des Français, c'est des espions français. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que quand les Français ont arrêté une Iranienne, une femme iranienne qui faisait de la propagande en France contre la France, on peut se dire, enfin en tout cas pour l'Iran, l'Iran version Mollah. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les Français ont arrêté cette femme en l'accusant de faire de la propagande pour le terrorisme. Et bien sûr, de l'autre côté, les Iraniens avaient le moyen de négociation, c'était nos deux Français.
C'était nos deux Français. Ouais.
Et c'est ce qui s'est passé, la négociation s'est faite entre les deux, en deux temps. Il y a eu d'abord la libération sur place, mais la mise à l'ambassade de France. Hein, c'est-à-dire que les deux Français étaient à l'ambassade, mais ne pouvaient pas quitter le territoire iranien. Pendant ce temps-là, l'Iranienne, il y a eu un procès à Paris. Et puis, suite à ce procès, elle a été mise à Paris. Elle était sous contrôle, je dirais, sous contrôle judiciaire. Enfin, il y avait un certain nombre de règles qu'elle devait respecter. Et puis, sans doute par hasard, mais au moment où les deux Français ont pris l'avion pour rentrer en France, eh bien, toutes les sanctions qui étaient contre l'Iranienne ont été levées. Donc maintenant, elle est libre de repartir quand elle veut en Iran, il n'y a plus aucune contrainte. Alors, ce qui est étonnant, par contre, c'est qu'elle ne veut pas partir.
C'est vraiment un échange. Elle ne veut pas partir.
Elle dit, mais je suis très bien en France, j'aime la France, vous m'avez accusé injustement, je veux rester. Alors là, on a un vrai problème, parce qu'elle est blanchie de tout. Comment on fait?
Si elle a été blanchie de tout, on ne peut plus l'expulser.
Exactement. Donc ça devient intéressant. C'est maintenant que ça va devenir intéressant.
Donc en fait, c'est une personnalité à suivre. Ça m'avait échappé, ce point-là. Et donc, ça s'est passé à quel...
Mais ça se passe. Ouais. Mais vous savez... Il ne faut jamais oublier. Mais il y a une chose, je le rappelle souvent, parce que sur l'Iran, on raconte beaucoup de choses, mais l'histoire du nucléaire en Iran, il faut savoir, au début, je vais le dire très rapidement, c'est le Shah, qui s'est jamais été Khomeini, c'est le Shah qui a dit « je veux une bombe atomique parce que les Iraniens, les Israéliens l'ont, les Pakistanais l'ont, pourquoi nous on ne l'aurait pas ?» On est le plus grand pays du coin, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Donc ça, c'est le Shah. Les Français ont dit... Vous avez raison, on a aidé les Israéliens à avoir la bombe, on va vous aider, vous, à l'avoir. Mais pour ça, il faut nous donner de l'argent. Alors, les Iraniens ont donné une somme très importante pour entrer dans une société qui s'appelait Eurodif.
Ça, c'était quand ?
à l'époque de avant
79,
79 oui, c'est les années 70, ouais. Ouais. Hein? Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est là où ça devient intéressant, si vous voulez, c'est que arrive Khomeini. Khomeini, dans un premier temps, il fait une fatwa, c'est-à-dire un ordre religieux, disant la bombe atomique c'est sale. Il n'y a pas de bombe atomique musulmane. Donc, il fait une fatwa contre la bombe atomique. C'est, vous voyez, c'est là où il faut... On raconte un peu plein de choses en France, mais ce n'est pas la vérité. Et du coup, il dit, puisque je ne ferai pas la bombe atomique, vous allez me rendre l'argent que vous m'avez prêté. Que je vous ai prêté. Et les Français disent, non, on le garde. Et les Iraniens prennent la colère et disent, vous voulez le garder? On va faire des attentats jusqu'au moment où vous le rendrez. Et c'est ça l'histoire de tous les attentats terroristes iraniens en France. C'était pour récupérer l'argent qu'on leur devait et qu'on ne payait pas. Ouais. Et à la fin, sous Chirac, Chirac a dit « on paye ». Et il n'y a plus eu d'attentats.
Incroyable.
Non, mais c'est le contentieux Rodif qui est connu.
Rodif.
Ce qui était très intéressant.
Les gens ont oublié tout ça.
C'est quand même une information ouverte. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous rappelez, c'est que vous le remettez ça dans un contexte plus long. Et que avant d'être des islamistes, des mollahs, etc., sont avant tout les héritiers d'un vieux peuple, les Perses,
qu'on
connaît bien, d'un empire.
Exactement.
Et la raison invoquée par le Shah dans les années 70, pourquoi pas ne pas avoir une arme nucléaire alors que le Pakistan l'a et l'Israël a, en soi, je veux dire, c'est une arme de non-emploi. On sait très bien que celui qui l'utilisera prend le risque de se faire vitrifier. Donc ça n'a rien de choquant. Alors si l'ambassade d'Israël en France m'écoute, il serait extrêmement choqué du propos. Mais moi je ne vois pas, franchement, je sais bien qu'il y a un antagonisme très fort entre les Perses, en tous les cas entre le pouvoir iranien actuel et l'État d'Israël. Mais dans l'absolu, je ne vois pas pourquoi on priverait les Iraniens d'avoir l'arme nucléaire.
Je voudrais qu'on revienne à nos deux espions. Quel rôle, est-ce que la DGSE, Alain Juillet, a joué un rôle dans cette libération? Est-ce que c'est négociations d'État en État?
C'est même un rôle essentiel. Dès qu'on arrive dans les otages, le rôle essentiel en France, c'est la DGSE qui l'occupe. Le pôle essentiel, toutes les négociations, tout ce qui est organisé, c'est la DGSE qui est à la manœuvre.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous.
Ces traitants, avec ses officiers et officières.
Voilà, vous qui connaissez bien cette machine de la DGSE, comment est-ce que ça s'est passé? Comment et qu'est-ce qui concrètement... on peut imaginer le cadre, pas dans le détail évidemment, mais...
On va chercher, si vous voulez, quand vous avez... Alors, c'est plus compliqué quand on ne sait pas qui, qu'on ne sait pas le groupe terroriste qui a pris un otage, mais quand c'est un cas officiel d'État comme là, c'est beaucoup plus simple. En définitive, on va chercher à avoir en face des interlocuteurs du côté... Bien sûr, là, c'était l'Iran. On va chercher à avoir des interlocuteurs avec qui on va discuter en disant, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour régler le problème? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que chacun annonce à l'autre ce que l'un... qui disent « voilà ce que je veux », et que l'autre dit « voilà ce que je suis prêt à faire », si vous voulez. C'est toujours le problème des négociations. Et là, il faut des intermédiaires. Et les services sont les intermédiaires qui vont...
Donc, ils négocient.
Dans toutes les négociations, il y a toujours les services. Toujours. Parce que c'est leur métier, en définitive. C'est ceux qui sont le plus aptes à négocier, parce que dans ces histoires-là, c'est pas de la diplomatie pure, avec des sourires partout.
Mais parfois,
Donc, c'est pas les diplomates, hein.
Non, les diplomates peuvent intervenir en support. Dans certains cas, ils interviennent en support. Ils interviennent toujours à la fin, quand on récupère les gens. La plupart des cas, ils sont accueillis par les diplomates, parce que les gens de la DGSE n'ont pas vocation à se montrer en photo à Paris Match, c'est clair. Donc, au dernier moment, on passe la main à ceux qui vont être officiels.
Mais en fait, les chevilles ouvrières, c'est Jean-François Coulon-Desart.
Et c'est la DGSE qui négocie aussi avec l'Algérie en ce moment pour notre confrère.
Pour l'Algérie, c'est plus compliqué. C'est pas en Algérie, d'abord, il faut savoir que ce qu'était la DST à l'époque était beaucoup mieux placé que la DGSE, parce qu'on avait de meilleures relations. Les services de la sécurité territoriale, la DST, avait de meilleures relations que la DGSE. Donc, dans des histoires tordues, c'était les gens de la DST qui allaient discuter. Ça n'empêchait pas la DGSE d'y aller aussi. Mais Il faut bien dire que ce n'était pas très bon. Aujourd'hui, ça s'est bien amélioré. Il y a de meilleures relations, indiscutablement, entre les deux services, hein, service algérien et puis service français. Et donc, bien sûr, il y a dans les négociations, les diplomates jouent leur rôle, parce que là, on voit le président joue son rôle aussi. Hein. Il y a le président qui joue son rôle, il y a des diplomates qui jouent leur rôle, il y a les services. Vous avez l'Église, dans un certain nombre de cas. D'ailleurs, ça risque de se reproduire avec Léon XIV.
Avec le pape qui va en Algérie. Ouais,
parce que l'Église a un service de renseignement extrêmement efficace, un des meilleurs au monde. Hein. Et puis, il a des communautés, comme la communauté San Egidio, par exemple, qui sont des organismes proches du pape et qui sont capables d'aller négocier dans des zones de conflit. Hein.
Avec lequel le président Macron a déjeuné à Rome.
Comme par hasard.
Voilà, comme par hasard.
Mmh. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est tout ça. Alors, il y a plein de gens qui vont être mêlés, mais il faut un pilote. Et le pilote, c'est toujours les services. Toujours.
Mmh. Mmh. Très intéressant. Alors, je voulais qu'on... N'écoute le témoignage des otages, là, lorsqu'ils sont revenus, ils n'ont pas été à la fête tout le temps. Hein. Ils ont été expliqués que leurs conditions de détention étaient très dures et j'aimerais que vous ne réagissiez peut-être à ce qu'ils ont dit en arrivant.
Nous étions des otages d'État. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Si vous voulez retenir quelque chose, dites que nous étions à la prison d'Evin, qui est le centre de répression principal en Iran. Mais dans la prison d'Evin, nous étions enfermés pendant 3 ans et demi au centre d'interrogatoire, où le régime est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, où vous n'avez aucun droit. Nous n'avons pas eu le droit de choisir nos défenseurs. Nous n'avions des contacts avec notre famille que de manière épisodique. Extrêmement brève. Nous étions sous menace permanente. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Ceci pour vous donner une idée du régime qui nous a été imposé. Nous sommes d'autant plus reconnaissants à toute l'aide qui nous a été apportée, comme l'a dit Cécile, à tous les niveaux de l'État, nos familles, et tous ceux qui, dans le pays, se sont mobilisés pour nous. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser, de nous casser, de nous ôter toute énergie, toute capacité à expliquer même ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que, pour nous, c'est un nouveau départ. Nous ne sommes pas brisés, nous allons témoigner. Nous allons expliquer et nous allons profiter de la vie et renouer avec tous nos proches, toutes nos familles et aller de l'avant. Vive la vie.
Voilà, donc c'était Jacques Paris qui réagissait juste après, au moment de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Il venait de revenir de là-bas. Comment est-ce que vous réagissez? Ça vous étonne
Non, pas du tout. Mais je crois qu'il y a
Alain Juillet.
Ça ne m'étonne pas du tout. Mais il y a plusieurs choses, si vous voulez. D'abord, il faut voir, nous avons deux Français habitués à vivre en France, dans des conditions françaises, qui savent comment ça se passe dans les prisons françaises. Évidemment, quand on se retrouve dans une prison d'un pays... du Moyen-Orient ou d'Afrique ou d'ailleurs, on découvre une autre réalité du monde de la prison. D'abord, il faut le savoir, parce que c'est pas du tout comme chez nous. Et bon, c'est beaucoup plus dur. Un Français, moi je me souviens d'un colonel qui était enfermé au Madagascar, ben on peut pas y vivre, c'est encore pire que ce qu'on raconte là. Hein. Donc il faut voir que il y a beaucoup de pays dans lesquels être en prison, c'est une véritable sanction. C'est-à-dire qu'on n'est pas, là pour expier, on est là pour être sanctionné. C'est pas du tout la même chose, hein, sur le plan du fond. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que il faut bien voir, c'était des otages d'État. Donc otages d'État, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'évidemment, on va pas leur permettre d'échanger avec les autres, quels qu'ils soient. Et c'est d'ailleurs le cas de tous les otages, quand vous les écoutez, quand ils reviennent, ils disent on pouvait parler à personne. Sauf quand, coup de chance, on se retrouvait dans la même cellule qu'un autre Français. Mais sinon, on ne pouvait pas parler. Donc ça aussi, ça fait partie du système. Alors c'est vrai, il a raison de dire que quand vous subissez une pression pareille, c'est épouvantable. Hein, il faut que ça dure. Là, ça a duré quand même un paquet d'années quand même. Hein, c'est pas 8 jours. Hein, c'est pas 15 jours ou un mois, excusez-moi, à Fresnes. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Donc, ces gens-là ont souffert énormément, et il faut une force d'âme, ça c'est indiscutable, pour tenir. Ouais. Donc, quand il dit « oui, nous on était forts, on a tenu, on ne s'est pas laissé avoir », oui, c'est sûr, et bravo. Parce que c'est là où ils ont été, à mon avis, le plus admirable dans tout ça, c'est ça, c'est qu'ils ont tenu. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tout pour vous casser, effectivement, avec un objectif. C'est qu'à la fin, ben, vous fassiez comme les procès de Moscou, c'est-à-dire que vous accusiez vous-même. Vous voyez, si jamais l'individu il est brisé et on lui dit, ben écoute, hein, si tu dis que tu reconnais que tu es un espion français qui a espionné tel machin, alors on te met à la télévision, tu le dis, et là ceux qui l'ont pris ont gagné. Parce qu'ils disent aux Français, bah, attendez, alors maintenant... Alors
justement, ah oui. Juillet...
c'était le but.
La question, il y a un auditeur qui pose la question, les gens, est-ce que c'était des gentils touristes du style des époux Turanges? Vous vous souvenez des époux Turanges? C'était au moment du
Rainbow Warrior. Non, ça n'a rien à voir.
Qui étaient des agents des services.
Les agents, les Turanges, on l'a su. On a su que c'était des agents 15 jours après, il faut savoir. Avec la collaboration du ministre de l'Intérieur français, mais enfin ça c'est un détail. Ceux-là, à l'évidence, non. C'était des syndicalistes, en plus. J'ai pas une critique contre les syndicalistes, mais c'était des syndicalistes, l'un et l'autre.
C'était pas des gens des services.
Non, c'était des gens de l'université, c'est pas du tout des gens des services, ça c'est une évidence. Et on met pas, et en plus, je vais vous dire, c'est pas du tout une critique, mais c'est un couple relativement âgé, 70 et 40 ans. Dans les services, il y a un truc, comme dans tous les pays du monde, c'est que les professionnels, ils prennent leur retraite. À 70 ans, ils sont plus dans le coup. Donc, vous avez la réponse.
Philippe
Charlez.
Oui, ils n'ont pas été en fait libérés directement de prison, ils avaient passé un certain temps à l'ambassade.
Oui.
Vous pouvez expliquer ce passage de la prison à l'ambassade? C'était quoi? C'était une libération surveillée?
Ça arrive souvent, ça. Les gens sont libérés, on obtient dans un premier temps la libération de la prison, mais avec interdiction de quitter le territoire. Bon, à ce moment-là, on ne va pas laisser les gens dans un hôtel ou dans un appartement, parce qu'ils ont toutes les chances de se faire reprendre par X, Y ou Z. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les met à l'ambassade, ils sont logés à l'ambassade, et ils sont traités comme des gens de l'ambassade. Et à ce moment-là, tout le monde, on ne peut plus y toucher. Ils sont en France, ils sont sur le territoire français. Donc, ils sont protégés, mais ils ne peuvent pas quitter le territoire. Et là, c'est ce qui se passait, puisqu'ils sont restés dans l'ambassade le temps qu'on règle le problème de l'Iranienne à Paris.
Quelques mois quand même.
Ah bah oui, ça a duré longtemps. Parce que
4 mois et demi.
La justice française, il fallait l'Iranienne a été arrêtée, il fallait le temps pour la juger, il fallait le temps de prendre la décision, ça ne se fait pas en un jour.
Allez, on reste en Iran. Ah, Jean-François Coulon-Desarts, vous avez une question.
Une question sur qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le Mossad travaille en Iran? Parce que ce qu'ils ont fait, quand même, est assez hallucinant.
Ah, mais ils ont indiscutablement, le Mossad a percé, il n'y a pas d'autre terme, tout le système de sécurité iranien, mais exactement comme le système du Hezbollah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, alors, par des moyens, pas seulement parce qu'on a tendance à dire c'est des moyens humains, les taupes, comme on appelle, c'est pas vrai. C'est essentiellement par des moyens techniques. Mais par des moyens techniques, ils sont arrivés à avoir des quantités d'informations sur tout le monde. Et alors après, une fois que vous avez ces informations, les gens, vous savez ce qu'ils font, vous savez comment ils se comportent. Vous savez, pour vous donner un exemple, Maduro, quand il a été... on demande à dire comment ils ont fait.
Il a été exfiltré.
Quand il a été exfiltré par les Américains, par les CIL.
Il a surtout été vendu par les siens.
Oui, mais comment ils ont su... à l'endroit où il était, pour poser l'hélicoptère, à 15 mètres de la maison où il était avec ses gardes du corps, pour tirer sur les gardes du corps, régler le problème des gardes du corps, et ensuite rentrer, le prendre avec sa femme et l'emmener. C'est simple. On le sait maintenant, c'est parce que la CIA suivait les gardes du corps avec leurs portables. Ils avaient identifié leurs portables, ils avaient repéré, ils faisaient du repérage avec les portables. Donc quand Maduro s'arrêtait quelque part, les gardes du corps étaient à côté, ne bougeaient plus, donc on savait qu'il était là. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont été directement guidés par les signaux des portables. Ils ont été le récupérer. Quand il y a eu l'affaire le premier jour, dans l'affaire iranienne, quand il y a eu tous ces gens qui ont été tués en même temps, tous les dirigeants qui ont été tués en même temps, c'est exactement les mêmes techniques. Ils avaient, mais c'est très fort, c'est là où je vous dis, ils sont vraiment très forts. ils avaient repéré, ils avaient identifié par les mails, ils avaient les échanges, même cryptés et tout. Hein, ils avaient les mails, ils avaient les échanges, ils avaient les écoutes, ils avaient les téléphones, la position des téléphones, il y avait tout ça. Bon, plus, ça c'est une fuite qui a été racontée ça, en plus ils avaient réussi à pirater les images qu'on prend dans la rue, les caméras dans la rue. Mmh. Bon, donc ils pouvaient suivre les gens à la trace, les uns et les autres.
Les gardes du corps aussi,
en
Iran.
Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ils ont vu sur tous les mails de tout le monde qu'il y avait une réunion le lendemain, qui allait se faire. Ils l'ont su par les écoutes, par tout ce qu'il y avait, toutes les informations. Ah, très bien. Ils ont la réunion. Ensuite, le lendemain, par les téléphones portables, les interceptions, les images, et tout, ils voient tout le monde qui converge vers un lieu. Et à un moment, on plus rien ne bouge, parce que tout le monde est au même endroit. C'est le moment où taper.
Bingo. Oui.
Bingo. Mmh. Si vous voulez, c'est ça, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a, avec l'intelligence artificielle et les moyens techniques d'interception, quand on arrive au plus haut niveau, bien entendu, hein, on a la possibilité, ils en ont fait la démonstration en Iran, on peut faire ce qu'on veut pratiquement.
Oui, ça fait penser, ce que vous dites, vous savez, à l'explosion de ces portables des dirigeants.
Oui, c'est pour les Iraniens.
Les portables, ils ne savaient pas, si vous voulez, sur les portables, quand l'opération a été conçue,
c'était les beepers.
Fameux beepers. Ils ne savaient pas, en définitive, ils ne savaient pas les noms, les gens. C'est pas du tout comme là, où là, je vous dis, on connaît les gens, on les suit et on les rencontre. Dans les beepers, c'est autre chose. On se dit, ils utilisent des portables, on va les convaincre qu'il ne faut pas utiliser les portables parce que c'est dangereux, ça peut être écouté, et qu'il faut utiliser un autre appareil qui est un beeper. Donc, premier travail, arriver à convaincre le Hezbollah qu'il faut utiliser un autre type d'appareil pour changer les fameux portables. Ensuite, on dit, bon, les beepers, il n'y en a pas beaucoup, donc on va trouver une filière pour leur proposer les beepers à un prix tel qu'ils vont acheter les nôtres. Mais pour ça, il faut acheter les beepers, il faut les transformer, toujours à l'étranger, hein, puisqu'il ne s'agit pas de faire ça, évidemment, en Israël. Donc, on achète les beepers à l'étranger, dans un autre pays étranger. On piège les beepers en mettant de l'explosif dans les batteries, à côté de la batterie, hein, de manière indétectable, parce qu'il ne s'agit pas que les gens puissent le repérer. Et après, donc, on livre ces beepers qu'on a convaincu les types d'acheter, et le Hezbollah lui-même envoie à tous ses dirigeants les beepers en disant « Maintenant, on a un système super sûr, vous pouvez l'utiliser sans problème. » C'est ça l'histoire. Ouais. Et les autres, et c'est là où c'est très fort, le Mossad va attendre, il a fait ça, ils ont tous les beepers, personne ne les fait, bien sûr, ils vont pas les faire exploser comme ça, ils attendent le bon moment, le kéros, comme diraient les Grecs, et au moment où c'est vraiment le moment de leur faire le mauvais coup, alors, on appuie sur le bouton, au moment où il y a quelque chose, ça, tout le monde s'agite, si vous voulez, on appuie sur le bouton, et quand les gens prennent le beeper, en plus, ça devient du vice, si vous voulez, mais c'est efficace, c'est qu'entre le moment où il sonnait et le moment où il explosait, il y avait un certain nombre de secondes où il n'explosait pas, si vous voulez, un retard. Oui. Et le retard, c'était pour que la personne le prenne dans la poche et le mette à l'oreille. Ouais. Parce que c'est plus dangereux quand ça pète à l'oreille que quand ça vous pète dans la main. Hein? Et oui. Donc, si vous voulez, c'est une incroyable opération qui est montée, mais alors d'un bout à l'autre, remarquable. Allez.
Mais c'était la première étage de la fusée.
Je vais défendre un peu les Français quand même, parce qu'on parle des Iraniens.
Oui, oui. Ah bah oui.
Ceux qui ont inventé le principe des beepers, c'est les Français.
Oui. Comme le Minitel.
Pendant la guerre d'Algérie, c'est le capitaine Léger du 11e choc qui a inventé ça. Pendant la guerre d'Algérie, on a utilisé des porte-radio piégés. On envoyait porte-radio militaire, hein, pour ceux qui s'en souviennent, les ARPC-10. Hein. On les a piégés, on les a transmis par des rebelles qu'on avait manœuvrés, manipulés, on les a transmis à des chefs, dont le fameux Amirouche, les chefs de Vilaya, et quand ils les ont pris et qu'ils ont appelé, ça a explosé, on a tué les gars. C'est comme ça qu'on a eu un certain nombre de chefs de Vilaya. Donc l'exemple, c'est les Français.
C'est les Français, ah oui, ça c'est bien.
Alors après, on en avait pour 3 ou 4. Ça a été 3000. Oui. Hein,
mais c'était, ouais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand...
Dernière question, parce qu'on aborde un autre thème.
Oui, mais c'est important. C'était la première étage de la fusée, les beepers, parce que l'idée, c'était de rassembler tous les chefs dans ce fameux immeuble et où les bombes sont tombées et ils ont anesthésié, quoi. Ils ont éliminé, ils ont tué, absolument, ils ont décapité tout le Hezbollah. Est-ce que c'est, vous êtes d'accord avec ça?
Alors non, il y a eu y a,
parce là, qu'il fallait comme ça, comme ils pouvaient plus parler, rapport, ils sont allés. Je parle de Beyrouth.
Pour les beepers, il y a eu, il y en a eu dans tout le Liban. D'ailleurs, il n'y a pas eu qu'une salle. Il y a eu dans tout le Liban, et on le sait par les rapports des médecins qui ont traité les gens, dans tout le Liban, les chefs, ils ont décapité non pas une dizaine de gars, c'est 3000 personnes. Il y a eu 3000 blessés, si vous voulez.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Donc, si incroyable. Vous voulez, l'organisation a été très, très touchée d'un coup.
Allez, j'aimerais qu'on parle d'une autre opération de maître espion, c'est la récupération des pilotes américains qui s'est passée tout récemment et qui là aussi a été quand même très impressionnante. Tout ça, c'est des scènes de cinéma. Hein.
Hollywood.
C'est un film.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec notre invité Alain Juillet, ancien directeur du renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la fameuse DGSE.
Il y a très longtemps. Hein. Moi, il y a très longtemps que j'ai quitté la DGSE. Je connais encore un petit peu.
C'est vrai, mais vous suivez très, très bien ce secteur-là. Vous en avez gardé beaucoup. Et nous sommes toujours, évidemment, avec Philippe Charlaise, Jean-François Coulon-Desart et Daniel Chel. Alain Juillet, je voulais qu'on parle de ces pilotes. Vous savez, cette opération absolument extraordinaire de récupération de deux pilotes américains de F-15 sur le territoire iranien. C'était en début de semaine, c'est tout récent. On est au cœur de ce métier de renseignement. Enseignement, encore une fois, comment est-ce qu'on prépare une telle opération? Comment c'est organisé? Qui contrôle tout ça? Ça paraît absolument extraordinaire, cette récupération de pilotes en territoire ennemi, même s'il y a eu un peu de casse, semble-t-il. Mais...
Oui, d'abord, c'est quelque chose que toutes les armées aériennes, dans toutes les armées aériennes dans le monde, pratiquent. Si vous voulez, il y a dans tous les Anglais, les Américains, les Russes, les Chinois, les Français, on a une organisation qui est spécialisée pour aller récupérer les pilotes tombés en territoire ennemi. Alors,
La France a ça.
Ah oui,
bien sûr.
Et puis on a des gens remarquables. Moi, je peux vous dire qu'on a les commandos de l'armée de l'air, les CPA-10, pour en prendre un des exemples. Ce sont des gens extraordinaires qui font des trucs incroyables et qui récupèrent les pilotes. Ou d'autres gens.
On a reçu d'ailleurs à Radio Courtoisie.
Le commando Hubert aussi.
Au
téléphone. Hubert, ils font ça.
C'est plus les marins. Mais on a comme ça en France, on a des gens qui sont vraiment à la pointe. Si vous voulez, on parle toujours, bien sûr, on parle des fameux SEAL parce qu'ils ont fait l'attaque, le SEAL 6. Ils ont fait Bin Laden. Là, maintenant, c'est eux qui ont récupéré le lieutenant-colonel. Donc on dit, ils sont formidables. Mais on a des aussi bon chez nous, il faut le dire. Alors là, sur ce domaine-là, on n'a pas... Là, vraiment,
on n'a pas de complexe à faire.
Alors, ceci étant, dans cette affaire-là, c'est ce qui est très intéressant. C'est que, les deux gars se sont éjectés. Il y a une chose déjà un peu anormale, atypique, si je peux dire, c'est qu'ils sont tombés très loin l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'éjection ne s'est pas faite au même moment. Or, normalement, dans un avion qui est touché comme ça, il y a le chef de bord, le commandant de bord, le plus pilote, qui dit « on s'éjecte » et les deux s'éjectent. Là, il y en a eu un qui s'est éjecté beaucoup plus tard que l'autre. Donc, ça a compliqué la récupération parce que quand le premier est tombé, les services de récupération, les rescues, là, ils sont venus, ils l'ont récupéré très vite, dans la journée, même pas, dans la nuit, ils l'ont récupéré. Bon. Le problème, c'était le second, parce qu'il était tombé beaucoup plus loin. Et c'était plus compliqué, si vous voulez.
Ouais.
Alors, parce que quand les gars ont été chercher le premier, ils n'ont pas trouvé le second qui était beaucoup plus loin. Et là, on s'aperçoit que, comme il a appliqué le gars, là, qui était blessé d'ailleurs, qui a été blessé lors de l'éjection ou à l'atterrissage, il a appliqué les règles, c'est-à-dire que quand vous tombez en parachute quelque part, il est évident que vous n'allez pas rester sur place, parce que les gens ont vu tomber le parachute et tout le monde va vous venir dessus. Donc, vous devez vous éloigner. Donc, le premier temps, c'est aller le plus loin possible. Et c'est ce qu'il a fait, d'après ce qu'ils disent. Alors, les gens disent 20 km, 10 km, enfin bon, il a fait beaucoup de kilomètres. C'est dur une zone assez désertique et montagneuse. Et puis, au bout d'un certain temps, il a trouvé une crevasse, il s'est planqué dedans. Et il a attendu comme il vient de le chercher. Parce qu'ils savent tout, les pilotes savent qu'une fois qu'ils sont au sol, les fameux services dont je parlais de récupération vont prendre en main le dossier.
Avec les radios.
Qu'il y a un émetteur, pilote a un émetteur sur lui, qui lorsqu'il est au sol, émet des ondes. Alors, on a dit qu'il coupait son appareil régulièrement, c'est pas ça. En réalité, les appareils actuels, on n'a pas besoin de couper parce qu'ils changent de longueur d'onde tout le temps. Donc quand vous les repérez sur une... Vous avez un signal et que donc vous commencez à vous orienter vers le signal, en réalité, le signal, il change de longueur d'onde, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire.
Ouais, parce qu'il serait repéré immédiatement par l'armée iranienne, en l'occurrence.
Par les bandits. C'est pas intéressant. Et on ne peut pas non plus dire, vous allez faire ça simplement 3 minutes toutes les 3 heures, parce que pendant ce temps-là, comment on fait pour le récupérer? Donc ce n'est pas possible. Donc si vous voulez, il y a des systèmes, c'est plus moderne, si vous voulez, que ce qui a été décrit. Donc il avait ce système qui l'appelait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les hélicoptères. Alors là, il y a deux versions. Enfin, prendre la première version qui semble la plus vraie, c'est qu'il y a des hélicoptères spécialisés, qui sont spécialisés parce qu'ils sont capables d'aller en territoire ennemi très loin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils opèrent en général de nuit. Les pilotes ont des
visions
nocturnes pour pouvoir voir quand on ne voit pas. Ils volent très bas. Et pour pouvoir aller très loin, parce que ça consomme un hélicoptère, on les ravitaille en vol. C'est-à-dire qu'en plus des hélicoptères, vous avez un avion ravitailleur qui est devant et qui vole, et on ravitaille. Et il n'y a que la dernière étape, si vous voulez, où les hélicoptères sont tout seuls. Alors, pourquoi je vous dis que c'est ce qui est probable? C'est qu'on a des photos prises par des Iraniens qui montrent l'avion ravitailleur et les deux hélicoptères qui suivent. Donc, on sait le démarrage de l'opération. Les hélicoptères, ils se posent, et puis à ce moment-là, ben, y en a un qui récupère, et l'autre est à côté en protection. Il faut toujours deux, parce qu'il y en a un qui est au-dessus, l'autre va au sol, et si jamais le premier était touché, le deuxième se poserait derrière. Donc si vous voulez, tout ça
est étudié. Oui.
C'est étudié, bien entendu. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est compliqué, pourquoi? Pour plusieurs choses. C'est que d'abord, les Iraniens qui ont vu tomber les pilotes, ont dit tout de suite aux paysans du coin... Le premier qui ramène un pilote, 60 000 dollars. Vous vous rendez compte, c'est comme si je vous dis, vous prenez $1 million si vous récupérez le gars. Autant vous dire qu'ils sont, tous les villages entiers sont mis à chercher les pilotes.
En chasse.
Et pour cause.
Bah oui.
Le problème, c'est que si jamais ils arrivaient sur lui, il était pris. Donc il fallait l'empêcher. Donc les Américains ont dû faire relayer des avions de chasse. Enfin, en réalité, c'est des A-10. C'est des avions spécialisés pour tirer, faire du tir au sol. Ils ont pris des avions A-10 et les avions A-10 ont maintenu les gens à distance.
En tirant.
Donc. En tirant.
Ouais.
Tout le temps. Chaque fois qu'il y avait un groupe qui s'approchait, on tirait. Et alors, il semble bien qu'en plus, pour tromper l'ennemi, il y avait plusieurs zones où il tirait pour qu'on croit que le gars était là alors qu'il était là. Enfin, il y a eu, les leurres, comme on dit. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ils ont maintenu les gens assez loin. Et à la fin, eh bien, il y a effectivement un hélicoptère des SEAL qui s'est posé, qui a récupéré le pilote. Et alors, on dit que ces hélicoptères qui ont été touchés par des tirs, quand même, des Iraniens, parce qu'ils volent très bas, donc les gens tirent, y compris au fusil, contre les hélicoptères. Les hélicoptères ont pu rejoindre donc leur base, et puis il n'y a pas eu de problème. Et le lieutenant-colonel a été sauvé.
Il y a des avions qui sont restés sur place.
Alors, justement, j'allais y venir. Ça, c'est l'histoire probable, c'est ce qui se fait toujours. Là, dans cette histoire-là, il y a autre chose. C'est qu'on nous dit, ils ont envoyé deux avions, deux C-130. C-130, c'est des gros avions, très gros avions. C'est comme la 400M, c'est des avions énormes, mais qui se posent sur des terrains très courts, parce que c'est bien le but. Donc ils ont posé sur un aéroport agricole qui servait pour des petits avions, pour expandre des pesticides et autres.
Etc.
Voilà.
Ouais.
Ils ont posé deux C-130, et dans les C-130, il y avait un hélicoptère qu'ils ont sorti. Pour ça, c'est pour éviter d'avoir à faire tout ce parcours dont je vous parlais.
Je comprends. Avec des ravitaillements, etc.
Voilà. Ouais. Donc, ils ont posé les avions, ils ont sorti les hélicoptères. Et avec les hélicoptères, les gars sont partis direction chercher le pilote. Et puis, au retour, les hélicoptères sont revenus. Et à ce moment-là, ils allaient laisser les hélicoptères et ils allaient redécoller dans les avions. Manque de chance, les avions n'ont pas réussi à redécoller.
Oui, ils étaient embourbés, j'ai l'impression.
Alors, ce qui est là où c'est un peu étonnant, parce que quand vous aviez les photos, il n'y a pas de boue. Alors, il y a du sable, par contre. Donc, c'était peut-être qu'il y avait un excès de sable sur la piste, enfin, sur l'espèce de piste. Et donc, que les avions, les roues patinaient et qu'ils n'ont pas pu décoller. À ce moment-là, panique, parce qu'il y avait deux avions au sol, deux hélicoptères au sol, les troupes. Les commandos
et le souvenir de l'expédition Carter.
Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé à ce moment-là trois avions plus petits,
hein, mais un peu plus petit, mais qui se pose sur plus court et redécolle plus facilement. Les trois avions ont réussi à se poser. Là, le terrain, il devait être sacrément occupé, hein, parce que c'est un petit truc. Hein,
ah oui, c'est ça. Bon.
Et ils ont réussi à les poser. Les équipages des C-130, les équipages des hélicoptères et le pilote blessé ont été embarqués et les avions ont décollé.
Donc dans les petits avions.
Pendant ce temps-là, les troupes iraniennes arrivaient parce qu'ils avaient vu quand même les avions se poser.
Oui, c'est quand même pas très discret.
C'est un tir du monde. Ouais. Hein, ouais. Parce que ça, un C-130, hein, c'est pas,
oui, ça se voit,
c'est pas un petit avion quand même. Donc ils avaient vu que ça arrivait. Donc ils arrivaient tous de tous les côtés. Donc les avions américains, les A-10, étaient obligés de straffer, qu'on dirait, de tirer tout autour pour les empêcher d'avancer. Donc c'était un vrai combat, hein, Les trois avions ont réussi à décoller, et bien évidemment, on ne pouvait pas laisser sur place deux C-130, qui en plus sont des C-130 particuliers, puis sont équipés pour des missions spéciales,
spéciaux. Il fallait les faire péter, sinon.
Donc on les a fait péter, et il en a fait péter les deux hélicoptères. Ouais. Alors, quand vous faites le bilan...
Ça coûte très cher.
Il y a deux C-130, deux hélicoptères, il y a eu les deux hélicoptères touchés, qui ont été abîmés, qui sont revenus. Ceux-là, on sait qu'ils sont revenus. Hein, plus un A-10 qui était touché aussi et dont le pilote s'est éjecté au-dessus du Koweït pour s'en sortir, pour pas tomber évidemment du côté.
Plus le, c'était quoi, le F-35,
le F-35. Plus le F-15.
Le F-15.
Ça commence à faire beaucoup. Hein,
Ça fait pas mal.
Alors, c'est, c'est incroyable de pouvoir payer ça.
Bien sûr. Il faut savoir une chose, une petite précision sur les pilotes, c'est que quand ils s'évacuent, quoi, je veux dire, le siège éjectable, ils ne peuvent pas le contrôler. Ça tombe où ça veut. Ça tombe droit. Ils ne peuvent pas aller à droite, à gauche avec un parachute. Bon, c'est impossible. Ça tombe impossible, acte 1. Acte 2, ils ont un équipement spécial. Ils sont armés, bien entendu. Ils ont de l'eau. Ils ont une petite trousse médicale, la fameuse balise, quelques barres pour déjeuner, quoi, pour manger, etc. Ils n'arrivent pas quand même comme ça dans la pampa sans rien. Quoi. Surtout de l'eau. Et ça dépend selon les missions. Si c'est des missions désertiques ou si c'est des missions au-dessus de la flotte, l'équipement est différent. Ils auront par exemple, si c'est au-dessus de l'Atlantique, au-dessus d'une mer,
au-dessus du Pacifique,
ils auront de la poudre anti-requin.
On découvre que Jean-François Coulon-Désart a été un pilote de chasse de l'armée française, sans doute. Voilà.
Il a raison.
Et c'est assez extraordinaire. Je suis sûr que les Américains en feront un film. La France est incapable de faire des films.
J'espère, parce que c'est une belle histoire. Le lieutenant-colonel qui a été récupéré, il a été très courageux, indiscutablement. Il s'est soigné tout seul. Ça fait un peu Rambo. Hein. Il s'est soigné tout seul. Il a fait 20 bornes gravement blessé. Il fallait faire quand même.
Hein. Un territoire ennemi.
Et quand on voit l'opération,
c'est incroyable.
Imaginez ça se passe.
Il y avait eu une récupération de. Alors, c'était des pilotes ou des militaires israéliens, c'était Entebbe. Ça vous rappelle?
Mais là, Entebbe, c'était autre chose.
C'est autre chose, c'est les otages.
C'était un avion qui avait été détourné par les Palestiniens. Dans les Palestiniens, d'ailleurs, il y avait des gars d'Action Directe, des Allemands là, de la bande à Bader. Il y avait deux gars de la bande à Bader dans les...
On voulait absolument.
Peurs, hein. Et les Israéliens ont fait un truc formidable. Quand l'avion s'est posé en Ouganda, ils ont fait un truc formidable. C'est qu'ils ont été derrière, ils sont venus avec un avion. Ils ont carrément posé un avion avec un commando des forces spéciales israéliennes, de Sayed Markal, qui est leur unité spéciale la plus connue. Hein. Et Sayed Markal, ils sont posés, ils ont roulé sur la piste jusqu'à l'aéroport. Les gens ont cru que c'était un avion banal. Hein. Il devait avoir, il n'avait pas évidemment l'étoile de David sur le fuselage. Hein. Autant vous dire, hein. Il devait avoir l'étoile du Mali ou du Kenya, vous allez savoir. Bon, les gens ne s'étaient pas choqués, ils sont arrivés jusqu'à l'aéroport, et là, les commandos sont sortis, puis ont abattu tous les gardiens, les kidnappeurs, et ont récupéré le personnel. Et c'est dans cette affaire-là, c'est très intéressant. Alors,
Légion avait joué un rôle, là, aussi.
Non.
Les frappe à toutes, et on va revenir en France.
Ouais. Pour tromper l'ennemi, quand ils sont posés à... ils ont posé l'avion d'abord en bout de piste, et ils ont débarqué une jeep de l'avion, et dans la jeep, ils ont mis un type qui ressemblait au président Amin Dada, qui était le président de l'époque. Vous voyez ? Et alors, les gardiens, les gars du coin, les Ougandais, ils ont vu arriver une jeep avec le président qui était à l'intérieur. Attendez, il y avait le gros avion là-bas au bout, il n'y avait plus aucun problème, si vous voulez. Donc, plus personne ne pensait à se défendre. Et c'était le coup de génie, parce que derrière, il y avait les commandos qui sont arrivés. Et Netanyahou, il a perdu son frère, parce que le patron de l'opération, c'était le frère de Netanyahou, qui était le patron de Sayeret Markal, et il a été tué, c'est le seul mort de l'opération en Ouganda, qui a été tué.
Je conseille d'ailleurs, je dis un tout petit dernier mot, il y a un film années 70 absolument fabuleux qui s'appelle Les Oies Sauvages.
Ah oui, oui,
reprend un peu cette thématique pour délivrer un chef d'État prisonnier en Afrique, un film absolument fabuleux.
Ouais, absolument, c'était inspiré par ces choses-là.
Absolument, c'est pour ça.
Allez, on va revenir en France, on va parler de la France dans ce conflit.